Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, des policiers en colère. Tous les syndicats de la police nationale appellent à un grand rassemblement le mois prochain, du jamais vu depuis près de 20 ans. Dernier signe d'une rentrée sociale qui s'annonce très chaude. L'exécutif en face a décidé de multiplier les gestes budgétaires. Avec quelles ressources? Analyse avenir du service économique. À venir également dans ce journal, les coûts cachés des déchets nucléaires. Il manquerait 20 milliards d'euros pour les traiter, selon Greenpeace. Les oubliés du 11 septembre aux États-Unis, des dizaines de milliers de pompiers menacés par le cancer. Et puis pour terminer, de la musique classique et le premier concert de la rentrée de l'Orchestre National de France, l'un de nos deux orchestres, ce sera en Suisse au Festival de Lucerne.
Et d'un mot, je vous rappelle que l'invité de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50 est aujourd'hui le PDG d'Orange, Stéphane Richard.
France Inter.
Les foyers de tension sociale, Sébastien, se multiplient en cette rentrée. Santé, retraite, éducation nationale et maintenant police.
La police nationale où les syndicats sont particulièrement puissants, eh bien ce sont tous les syndicats qui appellent à une marche de la colère le 2 octobre prochain. Gardiens de la paix, officiers, commissaires et administratifs, un appel unitaire inédit depuis près de 20 ans selon eux, avec au départ ces chiffres accablants des suicides, 49 policiers qui se sont suicidés depuis le début de l'année. Et plus largement, un ras-le-bol, mauvaises conditions de travail, inquiétude autour des retraites. Il faut donc tout revoir, explique en substance David Lebars. Il est secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale.
Tous les personnels, tout corps, tout grade, veulent faire savoir et entendre que l'état de l'institution nécessite des mesures d'urgence. Aujourd'hui, en 2019, les conditions dans lesquelles on fait travailler un policier, qu'il soit jeune, ancien ou expérimenté, ne sont plus acceptables. On a une institution qui est délaissée, qui a été abandonnés. On ne peut plus laisser aujourd'hui les policiers, quel que soit leur grade, entrer dans une institution avec un métier aussi difficile et aussi exigeant et attendre d'eux le retour qu'ils donnent en ne prenant pas en compte ces difficultés qui sont immenses. Le 2 octobre, nous serons tous unis, tout corps, tout grade, pour faire comprendre qu'il est temps de regarder l'état de la police nationale et d'être en mesure de la transformer. Et on est très au-delà du catégoriel ou des mesures indemnitaires. On est sur un changement profond de la façon dont les forces de l'ordre sont utilisées aujourd'hui en France.
David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires, a noté cette nuit de violence à Quimper dans le quartier de Pénars. 14 voitures brûlées. Après des rodéos en pleine rue, pompiers et policiers ont été caillassés. Des violences inacceptables selon le préfet du Finistère.
Les policiers donc mobilisés donc le 2 octobre, mais ils ne seront pas les seuls dans les prochaines semaines.
Appel de la CGT aujourd'hui à une journée nationale dans les urgences. Ce vendredi, les syndicats de la RATP défendront leur régime spécial, trafic quasi nul en perspective. Le 19 septembre, ce sera au tour des salariés d'EDF d'arrêter le travail pour protester contre la réorganisation de l'entreprise. Et c'est sans compter avec les pompiers en grève depuis juin, ou les gilets jaunes qui prévoient une grosse journée le 21 septembre prochain. Bref, les départs d'incendies sociaux sont nombreux. En face, le gouvernement a choisi de déminer le terrain en sortant le carnet de chèques. Mais avec quels moyens? C'est toute la question, Fabien Cazot.
Il y a d'abord les dépenses qui ne pèseront pas plus sur les comptes publics, car il s'agit de sommes qui étaient déjà budgétées ailleurs, notamment les 750 millions annoncés avant-hier pour les urgences. Il s'agira de redéploiements sur 4 ans de crédits déjà existants au sein du ministère de la Santé. D'autres dépenses plus modestes sont en revanche, elles, de nouvelles dépenses, les 300 millions qui financeront les augmentations pour les enseignants, par exemple, ou encore les 90 millions annoncés hier pour favoriser l'insertion par l'activité économique. Comment financer? De deux manières. D'abord, en coupant d'autres postes, notamment dans le domaine du logement. Le nouveau mode de calcul des APL rapportera à l'État 1 milliard d'euros l'année prochaine. Il y a aussi des économies à attendre sur l'aide à la rénovation énergétique, ainsi que sur le budget d'Action Logement. Et puis, il n'a jamais été aussi peu cher d'emprunter. Les taux d'intérêt sont bas et la France en profite en ce moment pour lever des sommes records sur les marchés financiers.
Un exemple récent d'ailleurs, la semaine dernière, la France a fait sur les marchés la plus grosse levée de dette de son histoire, plus de 10 milliards d'euros en une seule journée. On parle gros sous encore avec cette question, et si les déchets nucléaires nous coûtaient beaucoup plus cher que prévu? C'est ce que dénonce Greenpeace dans un rapport publié aujourd'hui, rapport qui pose la question du démantèlement à venir des centrales nucléaires françaises, des milliers de tonnes de déchets en perspective dont le coût du stockage serait totalement sous-estimé. Les précisions de Célia Quiret.
Pour Greenpeace, le recyclage des déchets est un mythe. Moins de 1% des matières radioactives potentiellement valorisables sont réutilisées. Aujourd'hui, les déchets sont stockés, mais les sites sont de plus en plus saturés. Pour donner une idée du volume, la France comptait fin 2016 1,5 million de mètres cubes de déchets radioactifs. Demain, les plus dangereux pourraient être enfouis à Bure, dans la Meuse, à 500 mètres sous terre. Mais Alix Mazzoni de Greenpeace estime déjà que cela ne suffira pas.
Par exemple, sur le site de Bure, selon nos calculs, le site est d'ores et déjà deux fois trop petit pour accueillir ces déchets radioactifs qui sont déjà en fait présents sur le territoire français.
Pour Greenpeace, la crise des déchets n'est plus tenable. Alix Mazzoni demande d'urgence plus de transparence.
Aujourd'hui, la facture globale est évaluée à environ 73 milliards d'euros par la filière nucléaire. Selon nos calculs, il faudrait rajouter déjà une vingtaine de milliards d'euros. C'est sans prendre en compte tous les déchets nucléaires qui vont être produits dans les années qui viennent, puisqu'il faut rappeler que chaque année, l'électricité nucléaire produit des déchets supplémentaires.
En juillet, la Cour des comptes dénonçait déjà un certain flou sur la politique nucléaire française, un risque de saturation des sites de stockage et des incertitudes sur les factures liées aux déchets. EDF aimerait par exemple pouvoir recycler certains métaux très faiblement radioactifs pour les transformer en objets du quotidien. Les anti-nucléaires sont déjà vent debout contre cette idée.
Célia Kiray, direction New York maintenant avec les commémorations des attentats du 11 septembre 2001. Plus de 3000 morts il y a 18 ans, mais combien de morts à venir? Car le bilan de l'effondrement des Twin Towers pourrait être beaucoup plus lourd. L'énorme nuage de cendres et de débris soulevé à l'époque pourrait être à l'origine de milliers de cas de cancer, notamment chez les pompiers. Un monument leur est d'ailleurs dédié depuis peu en plein centre de la ville. À New York, le reportage de Loïc Loury.
Six monolithes de granit inclinés comme des rampes et cerclés de métal provenant des tours jumelles. La clairière du mémorial se trouve à quelques pas des deux fontaines colossales érigées en mémoire des victimes du 11 septembre. Mais au contraire de celle-ci, aucun nom gravé dans la roche, car des victimes, le nuage mortel pourrait en faire des milliers dans les décennies à venir. Ils méritent qu'on se souvienne d'eux, dit Emily, une touriste de Cincinnati.
Ils étaient tellement nombreux, tous volontaires pour la plupart. Ils sont venus pour aider, pour essayer de trouver les survivants, des restes, pour apporter des réponses aux familles. Alors oui, ils méritent vraiment qu'on se souvienne d'eux.
Et New York, en effet, compte ses malades à retardement. Près de 100 000 pompiers, policiers ou habitants de Manhattan se sont inscrits à un programme de soins. 12 000 d'entre eux souffrent d'un cancer. Le fonds d'indemnisation qui leur est dédié lui a failli s'épuiser cet été. Ces victimes ont été oubliées, avait affirmé John Stewart, ancien animateur de télévision, désormais défenseur de leur cause. Il s'était exprimé les larmes aux yeux devant une commission du Congrès très clairsemée.
Derrière moi, une pièce pleine de volontaires du 11 septembre. Et en face de moi, un Congrès presque vide. Malades et mourants, ils se sont déplacés jusqu'ici pour ne parler à personne. Honteux.
Et ce message depuis à portée, le fonds en question est désormais ouvert jusqu'en 2090. New York, Loïc Loury, France Inter.
Encore à l'étranger, il voulait bombarder l'Iran et la Corée du Nord. Il a été limogé hier. Le très va-t-en-guerre conseiller américain, la sécurité nationale, John Bolton et sa moustache célèbre ont été limogés par Donald Trump à l'origine de profonds désaccords avec le locataire de la Maison Blanche sur la politique iranienne, afghane ou coréenne.
7h38, pardon Sébastien, on revient en France avec une rentrée délicate pour la France insoumise.
Le parti plus préoccupé par son avenir judiciaire que par la rentrée sociale dont on parlait en début de journal. Jean-Luc Mélenchon et 5 autres parlementaires passent en effet en procès pour rébellion et intimidation le 19 et 20 septembre prochain. C'est la suite des perquisitions au siège de la France insoumise d'octobre dernier. Et hier, les députés de la France insoumise ont en quelque sorte commencé leur plaidoirie à l'Assemblée nationale. Laurence Perron.
Ce procès, Jean-Luc Mélenchon et les siens entend en faire une tribune. La France insoumise aurait été la première, ce 16 octobre 2018, à subir, je cite, « les violences policières de l'État » avant les Gilets jaunes, avant Geneviève Leguet, avant Steve Maya Canisso, avant les décrocheurs de portraits présidentiels. Mathilde Panot, députée insoumise du Val-de-Marne.
Nous avons un devoir aussi de parler pour toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui subissent cette répression, cette utilisation de la force juridique et policière.
À la tribune de la petite salle de conférence de l'Assemblée nationale, Alexis Corbière, accusé de rébellion et d'intimidation, s'anime.
Il faudrait que j'accepte cette situation où on veut m'infliger peut-être de la prison ferme, que les chefs d'inculpation contre Jean-Luc Mélenchon ne cessent de se rallonger. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a souhaité rentrer dans un local.
Et ça y est, c'est parti en mode meeting.
Pourquoi Jean-Luc Mélenchon, au bout d'un moment, lève le ton? Des fois, on me dit parce qu'il n'a pas le droit de rentrer dans un local. Ce n'est pas vrai. J'étais rentré dans le local. Quand moi, une demi-heure avant Jean-Luc, je rentre dans le local, tout le monde s'est mis au garde à vous, monsieur le député, rentrez. Et quand c'est Jean-Luc qui vient, il ne peut plus rentrer.
Lors de la convocation la semaine prochaine au tribunal, Tous les députés insoumis sont censés être présents, tout en souhaitant pour beaucoup qu'on en finisse vite, pour ne pas éclipser une rentrée sociale dont ils croient, avec la grève des urgences et la réforme des retraites, qu'elle sera chaude.
Laurence Perron, un mot de justice avec la suite du dossier, le Squarneck, du nom de ce chirurgien de Jonzac en Charente-Maritime, accusé de viol et d'agression sexuelle sur mineurs. Une soixantaine de nouvelles plaintes ont été déposées hier contre lui, et ceci après la découverte de carnets dans lesquels il consignait des relations sexuelles avec près de 200 jeunes patients. On termine avec un concert exceptionnel ce soir de l'un de nos orchestres, l'Orchestre National de France, qui sera donc ce soir en Suisse, concert hors les murs, dans le cadre du prestigieux festival de Lucerne. Au programme, les tableaux d'une exposition de Moussorgski et Ravel, et le deuxième concerto de Liszt avec le pianiste russe Evgeny Kissin, le tout sous la direction du chef Emmanuel Krivine.
Il y a plusieurs orchestrations des tableaux de l'exposition de Moussorgski, et on revient toujours à celle de Ravel, quoi. Comment Ravel avait une vraie science de la culture russe. Et je pense que pour le national, c'est très important de participer à ce genre de choses, évidemment. Je suis très content d'être avec Kissin, qui est un génie et un grand ami. Il a un sens de la dramaturgie incroyable, et il y a longtemps qu'on se connaît, on a fait plein de concerts ensemble, on a justement donné l'autre liste plusieurs fois cette saison. C'est une place vraiment, oui, très exposée, très intéressante, une très bonne salle.
Emmanuel Krivine, au micro de Corinne Pellissier, Krivine, directeur de l'Orchestre National de France. Rentrée officielle de cet orchestre le 18 septembre prochain à la Maison Ronde.